Retrouvez Dear Well People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.
Dear Well People, bonjour chers auditeurs et bienvenue pour ce troisième épisode autour de la thématique de l'accessibilité. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre triptyque avec Ubisoft en compagnie de Michael Delova. Auparavant, nous avons pu faire un entretien avec David Tisserand, Accessibility Manager, Adrien Maurice, Lead UX Designer. Aujourd'hui, nous allons nous discuter avec Michael Delova, qui est aussi UX designer, mais qui a cette particularité d'être atteint lui-même de handicap. Et on va voir quel impact ça peut avoir sur son travail et comment promouvoir l'accessibilité en étant soi-même salarié d'Ubisoft. Bonjour, Michael.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Écoute, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta position à Ubisoft. Comment tu définirais l'UX design, UX designer, et comment ça se passe pour toi dans ton quotidien?
Yes, bien moi je suis UX et game designer, donc sur BGE2 à Ubisoft Montpellier. Mais il s'avère aussi que je suis ambassadeur diversité et inclusion du studio de Montpellier. J'ai une approche assez globale de la UX que j'associe plus à du game design qu'à de la UI par exemple. Donc selon moi, la UX, c'est la conciliation entre la UI, le game design et le marketing, mais aussi la sociologie, la psychologie, l'accessibilité, la diversité. C'est comment on développe en fait des systèmes de jeu inclusifs et accessibles pour tous, peu importe son genre, sa sexualité, son milieu social, son niveau intellectuel, ses capacités cognitives. Voilà, pour moi, le jeu vidéo, c'est un espace d'évasion qui doit s'adresser à tout un chacun. Et j'estime qu'en tant que créateur d'expérience, il est de ma responsabilité d'avoir un impact positif sur le monde de demain, sur les générations actuelles et futures. Donc je sais que c'est une définition un petit peu plus large que d'habitude, mais voilà, c'est ce en quoi je crois.
Bah, je dirais que ça rejoint un petit peu les définitions d'Adrien et de David, qui parlent notamment de l'UX comme l'expérience totale d'un jeu vidéo à partir du moment où on en entend parler et jusqu'au moment où il sort totalement de notre cerveau. Donc, en effet, ça peut passer par plein d'objets autres que le jeu vidéo lui-même. Ça peut être des trailers, ça peut être des articles, des tests, plein de choses. Donc, je pense que vous vous rejoignez bien sur ce point-là. Sur ta définition, tu as pu parler de UI pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est. Comment tu pourrais définir le UI, donc l'UI, si on veut être un peu plus français?
Alors, c'est très très simple, c'est un mot compliqué pour dire graphiste 2D en fait. Le UI artist, c'est le user interface artist, et concrètement, c'est tout ce qui est de l'ordre du graphisme 2D dans le jeu. L'iconographie, les menus, le HUD, tout ça.
Donc le HUD, donc l'affichage à l'écran,
oui,
les barres de santé, l'endurance, les munitions, ce genre de choses. Voilà. Tu as pu parler aussi que tu étais... Pardon, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, mais c'est tout ce qui est attrait au feedback visuel, en fait. C'est pour ça que c'est important dans l'accessibilité.
Très bien. Tu as pu parler d'une position d'ambassadeur diversité et inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela réfère dans tes activités au sein d'Ubisoft Montpellier?
Alors, je mets en place beaucoup d'actions sur ces sujets-là. Ça peut être aussi bien l'organisation d'un workshop pour sensibiliser à la diversité et à la représentation dans nos jeux. C'est aussi des actions de bénévolat que je mène auprès de différentes associations comme le Refuge ou Diversity Days, où je m'exprime sur le fait de l'importance de la diversité, quelle richesse ça apporte au sein des productions et dans les messages qu'on veut véhiculer au sein de nos jeux.
Donc, ton activité, elle ne se résume pas uniquement à ce que tu fais à Ubisoft, elle est un peu plus transversale, je dirais, au travers de bénévolat dans diverses associations.
Tout à fait.
D'accord.
Une vraie implication à la fois interne et externe.
Et réellement au sein d'Ubisoft, donc toi, tu travailles sur des projets, des process, comment tu arrives à mettre en avant l'accessibilité au sein de Ubisoft?
De par ma position de game designer, je suis forcément sensible à ces sujets-là et je mets un point d'honneur du coup à proposer des systèmes forcément accessibles, inclusifs. C'est aussi forcément un travail d'équipe, donc l'accessibilité, c'est un petit peu la responsabilité de chacun.
J'ai pu dire en début d'émission que tu étais atteint toi-même de handicap. Est-ce que tu pourrais définir ton handicap et l'expliquer à nos auditeurs, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors en fait, il s'avère que je suis un baromètre naturel à la surcharge cognitive parce que tout simplement, je suis atteint d'un TDAH. Donc le TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On a tendance à vulgariser ça en appelant ça de l'hyperactivité. Mais concrètement, les principaux symptômes de cet handicap, qui est un handicap invisible, c'est une hyperactivité cérébrale. Alors dit comme ça, on dirait que c'est presque un super pouvoir. Voilà, quand il s'agit de s'endormir, par exemple, c'est déjà plus compliqué. Les autres symptômes fréquents, c'est un grand manque d'attention, de l'impatience, de l'impulsivité. Les enfants atteints d'un TDAH sont souvent en difficulté scolaire. Il est assez rare d'aller très loin dans les études. Il y a aussi plein de choses positives sur lesquelles moi j'essaie de capitaliser, par exemple, qui vont être la créativité, l'hypersensibilité, le dynamisme, l'empathie, la vivacité d'esprit. Moi personnellement, pour contrer, on va dire, les effets indésirables de mon symptôme, j'ai par exemple développé des compétences organisationnelles très poussé, presque maniaco-dépressif du rangement. En fait, c'est tellement la pagaille dans ma tête que je suis obligé de m'appliquer une rigueur sur tout ce qui est organisation et rangement. Ce qui est pratique, au final, quand son métier, c'est d'organiser et de rendre digeste l'information pour les autres. En fait, il suffit que j'applique les mécanismes que j'ai développés pour moi-même, en fait, sur nos systèmes, en fait, tout simplement pour les rendre plus intuitifs.
Oui, finalement, c'est d'avoir trouvé des solutions à tes problèmes quotidiens que ça te permet d'améliorer les projets sur lesquels tu travailles.
Tout à fait.
Et je suppose qu'avec ce TDAH, donc avec ce handicap, tes collègues discutent souvent avec toi d'accessibilité, te demandent des conseils. Comment ils te mettent en avant sur ces questions?
Et moi, je suis naturellement, quelque part, on va dire, affilié à ces sujets de par mon statut de UX designer. Alors, bien sûr, on échange avec tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a aussi de plus en plus de choses qui sont mises en place, comme des niveaux de complétion pour valider des features qui doivent répondre à différentes normes d'accessibilité. On projette par exemple d'organiser des playtests avec des joueurs avec différentes situations de handicap. Et de manière locale, à Montpellier, nous avons créé un comité d'inclusion et diversité avec des thématiques, et l'une des thématiques est effectivement les handicaps, l'accessibilité. Il s'avère que naturellement je suis le porte-parole de ce groupe-là, où justement on va organiser des actions, de la sensibilisation sur ces sujets. Alors moi je mets un point d'honneur sur effectivement sur les bon, sur les handicaps invisibles parce que effectivement ça me concerne, mais on va traiter effectivement de toutes les situations d'handicap.
Oui, parce que c'est vrai que vous, finalement, toi, tu es atteint de TDAH, mais il existe tellement de handicaps, différents. Comment vous parvenez à avoir une vision générale du handicap sur les projets?
Ben en fait, on ne peut pas le savoir, on peut pas le savoir si la personne n'en parle pas. Et c'est bien d'ailleurs qu'on ne le sache pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de pudeur sur ce sujet-là. Par contre, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas, puisque j'ai de toute façon créé tellement de schémas de compensation que quand on interagit avec moi, on ne se dit pas, cette personne a un handicap. Mais effectivement, je sais très bien qu'il y a des personnes avec des syndromes autistiques, par exemple, ou la dyslexie, pardon. Donc en fait, on peut pas savoir et en même temps, tant mieux parce que le but, c'est justement de pas marginaliser les gens. Je sais que moi, j'ai eu vachement de mal, par exemple, à prendre l'initiative de me déclarer comme travailleur handicapé parce que j'avais peur qu'on se dise, ah ben, s'il est handicapé, ça veut dire qu'il est moins performant. Donc, je suis justement en train d'entreprendre les démarches parce que j'ai dépassé ce cap-là, en fait. Mais je peux comprendre que c'est compliqué pour quelqu'un de dire. J'ai un handicap ou j'ai une déficience, parce que on peut le recevoir comme quelque chose de péjoratif. Moi, pour moi, justement, ce qui fait qu'on est différent, ça nous rend unique et ça va apporter justement une autre sensibilité. Voilà, et c'est pas forcément en fait péjoratif d'avoir un handicap ou comme n'importe quelle autre différence.
Malheureusement, ça vient aussi de la société qui nous éduque dans ce sens-là, que le handicap est quelque chose de négatif et de fatal, alors qu'en effet, c'est totalement pas ça, et on se rend compte, après avoir fait ces démarches-là, qu'il y a autre chose de possible. Je comprends tout à fait. La difficulté que peuvent avoir certaines personnes à entreprendre les démarches auprès de la MDPH. Pour revenir à Ubisoft et notamment en interne, est-ce que ça arrive que des collègues te demandent de tester des projets et te demandent un avis sur l'accessibilité?
De la même manière que je disais tout à l'heure, on va me le demander parce que quelque part, en tant que designer, c'est forcément un petit peu mon travail. Mais moi, je vais instinctivement aussi faire des retours en disant, en mettant en avant cette sensibilité-là. C'est-à-dire que forcément, quand je vais dire que je trouve qu'un système est trop compliqué et pas assez intuitif, je pense qu'on va être plus attentif parce que le feedback vient de moi. Mais pas seulement parce que je suis TDAH, surtout parce que je suis aussi UX designer et mais comme n'importe qui peut faire un feedback de toute façon pertinent sur l'accessibilité ou sur l'intuitivité d'un système ou une incompréhension.
Tout à fait, mais je pense qu'en effet, ce mélange de professionnels UX designers ayant un handicap qui vit avec tous les jours, c'est quelque chose de assez, mais au final, qui permettent d'être mises en avant plutôt que d'être vues négativement.
Oui, c'est ça. On va dire que ça donne une certaine légitimité, quoi.
Et tant mieux. Et justement, par rapport à l'aspect TDAH et donc aux problèmes cognitifs que ça peut engendrer, dans le cadre de l'accessibilité de jeux vidéo, c'est quoi la principale feature d'accessibilité à penser, je dirais? Tu as parlé de simplicité, d'avoir un système simple. Dès que c'est trop complexe, qu'est-ce qui se passe finalement?
Ben moi, ce que je trouve de plus en plus intéressant, c'est justement d'avoir des options pour régler la difficulté et accompagner les gens parce que au final, l'accessibilité, c'est aussi rendre accessible une expérience aux personnes souffrant potentiellement de déficits mentaux ou cognitifs. Et moi, ce que je pense, c'est que tout le monde a le droit de s'évader et de jouir des expériences qu'on propose. Donc, pour moi, hein, la difficulté d'un jeu ne doit jamais résider dans la compréhension de ses systèmes, en fait. Donc, il faut se permettre de rendre des systèmes intuitifs, accessibles, faciles, ou de permettre ces options-là, en fait. tout le monde a le droit de jouer, peu importe son niveau intellectuel ou cognitif.
Tu me parlais, Michael, de comité d'accessibilité au sein de Ubisoft Montpellier. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire en plus que ce que ne fait déjà David sur l'ensemble des équipes d'Ubisoft pour l'accessibilité?
Alors oui, effectivement, les équipes de David travaillent énormément sur l'accessibilité, avec notamment l'organisation de playtests avec des personnes en situation de handicap. Mais au sein de Montpellier, on a également la création d'un comité inclusion et diversité qui se divise en différents groupes de travail et de réflexion, dont un groupe dont je suis le référent sur le handicap. Et on propose également d'autres actions, comme par exemple là, une qui me tient à cœur, c'est l'organisation d'une game jam sur la thématique de l'handicap, et avec des participants en situation de handicap.
Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir des participants en situation de handicap ou d'avoir des conseillers, des mentors, entre guillemets.
Alors, on n'est pas encore sûr exactement de ce qu'on va faire, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est au sein des équipes de la Game Jam, d'avoir une ou deux personnes en situation de handicap qui participent activement à la création du jeu et qui apportent justement leur sensibilité, leur connaissance sur ce sujet-là.
Je suppose que faire des playtests à Ubisoft Montpellier avec des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui est aussi en cours.
Oui, alors ça, c'est des choses qui se font déjà au niveau du groupe. Et effectivement, nous, au sein du comité, on pousse pour que ce genre d'initiative soit organisée aussi à Montpellier, quoi. Et c'est notamment effectivement les équipes de David Tisserand qui proposent ce type de travail, à la fois d'organisation de playtests et de workshops.
On a pu comprendre qu'avec le travail de David Tisserand, invité du premier épisode, qu'il s'agit d'un travail de fond pour Ubisoft d'uniformiser l'ensemble des équipes à la question de l'accessibilité. Mais ça peut être qu'un avantage d'avoir des initiatives locales dans chaque studio, comme à Montpellier, avec la création de ce comité pour toujours plus mettre en avant l'inclusion, la diversité et l'accessibilité. J'en profite pour remercier Ubisoft de ce travail de fond, justement, qu'ils font jour après jour. Et je les remercie aussi de cette occasion de pouvoir avoir des entretiens avec toi, Michael, avec David, avec Adrien, pour pouvoir parler toujours un peu plus d'accessibilité de jeux vidéo. Ça sonne l'heure de notre pause musicale, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose le remix de Take On Me dans le jeu The Last of Us Part II. Bonne écoute, chers auditeurs, on en parle juste après. Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, I'm okay. Take on me. Take safe and sorry. Take on me.
want to say, I'll say
retour, chers auditeurs, sur Dear Valley People, troisième épisode autour de l'accessibilité. On clôture notre triptyque sur Ubisoft avec Michael Delova, X-Designer à Ubisoft Montpellier. Ça va toujours, Michael ?
Ça va toujours très bien, merci.
Vous avez pu écouter le remake de Taken in The Lost of Us Part 2. Nous allons en discuter ensemble maintenant, puisque Michael, tu es professionnel de jeux vidéo, mais je suppose que tu es aussi joueur. Et dans le monde de l'accessibilité de jeux vidéo, au début de l'été, The Lost of Us Part 2 est sorti, et ça a été un tremblement de terre. En termes d'accessibilité, quelle est ton expérience du jeu et quelle est ton opinion autour de The Lost of Us partout et de son accessibilité ?
Mais effectivement, comme beaucoup, j'ai fait The Last of Us et j'ai adoré. Forcément, chez moi, ce qui vient, ce que je trouve pertinent et incroyable, c'est justement la manière dont ils vont traiter les sujets de la diversité, la représentation et la manière dont ils vont s'engager sur ces sujets-là. Et puis, bien sûr, Naughty Dog, de toute façon, depuis déjà quelques années, est à l'avant-garde sur les sujets, sur les options d'accessibilité. Donc, c'est évidemment une référence pour beaucoup et pour les acteurs concernés chez Ubisoft. Ça va être un petit peu redondant, mais j'en parlais tout à l'heure, notamment sur les options de difficulté pour rendre plus accessibles certains systèmes. Naughty Dog propose des choses hyper chouettes.
Alors justement, à propos de ces niveaux de difficulté dans The Lost of Us partout, c'est un peu plus nuancé que le simple facile, moyen, difficile qu'on peut trouver dans la plupart des jeux. Ça va être de la difficulté au niveau des alliés, au niveau des ennemis, au niveau des objets qu'on peut trouver sur le terrain. Est-ce que ça permet d'avoir une expérience plus personnel et plus proche finalement de l'expérience que le joueur veut avoir?
Bien sûr, puisque ça permet tout simplement d'adapter le jeu à son propre handicap ou à sa propre manière d'appréhender un jeu. Et comme je le disais tout à l'heure, chacun a le droit d'appréhender un jeu comme il le veut. Et donc ça, c'est génial. En fait, c'est de rendre adaptatif comme ça les systèmes. C'est vraiment ce que je retiens et ce que je trouve de plus en plus pertinent dans ce qu'on propose aujourd'hui.
Non, ce niveau de difficulté, c'est pour toi l'option d'accessibilité que tu retiens de The Last of Us partout.
Yes.
Oui. Y a-t-il d'autres options qui t'ont étonné, surpris et quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant?
Non, pas forcément. Justement, ce que je trouvais intéressant et pertinent, c'était ce niveau de granularité dans les options de difficulté. En fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, et vraiment le fait de pouvoir complètement adapter l'expérience à soi, quoi. Et c'est ça aussi l'inclusion et l'accessibilité. C'est comment on permet aux joueurs d'adapter l'expérience qu'on propose à son propre ressenti, à son propre handicap et à sa propre personnalité, quoi. C'est aussi ça la UX en fait.
Oui, en
La UX,
effet,
je rappelle, c'est
tout à
l'expérience
fait.
joueur simplement.
Tout à fait, on a pu se rendre compte avec Adrien que finalement, UX designer, vous faites déjà de l'accessibilité, sans le savoir, mais maintenant c'est devenu une réelle thématique.
Bien sûr. Rendre un système accessible, c'est déjà avoir en amont une réflexion UX sur le système et une réflexion cognitive. Bien sûr, on peut rajouter des options a posteriori, mais déjà en amont, si on réfléchit le système pour qu'il soit le plus accessible et le plus intuitif, c'est déjà faire de l'accessibilité et c'est pour moi le rôle d'un UX designer sur un projet.
Justement, tu parles d'options. Est-ce que pour toi, l'accessibilité, c'est simplement rajouter des options pour réussir à avoir une granularité sur l'expérience de jeu?
Non, justement, je reprends le point que je viens de définir juste avant. C'est effectivement penser le système en amont, le faire très tôt dans la production, avoir des UX designers, des spécialistes de l'accessibilité très tôt qui accompagnent les game designers et les équipes pour proposer des systèmes de jeu accessibles, intuitifs, représentatifs, inclusifs, tôt pour justement quelque part soulager après le nombre d'options qu'on va devoir rajouter en fait.
Selon toi, Michael, est-ce que c'est encore si difficile de mettre en place de l'accessibilité aujourd'hui?
Bien non, justement, ça l'est de moins en moins. Il y a encore effectivement beaucoup de combats à mener. Il y a un travail d'évangélisation, mais on a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais notamment des niveaux de complétion qui vont nous permettre d'évaluer l'accessibilité afin de valider une feature. Donc ça, c'est une vraie avancée. Donc les choses bougent, ça avance. Donc voilà, c'est plutôt positif sur ces sujets-là.
Oui, notamment au niveau de la production, comme tu dis, il va y avoir de plus en plus de process, de validation pour s'assurer que l'accessibilité est bien présente, et notamment pour aussi permettre d'avancer, il y a de plus en plus d'événements qui parlent du sujet d'accessibilité. Est-ce que toi, Mickaël, personnellement, tu as des événements à ne pas rater sur ces sujets-là?
Moi, je participe tous les ans au UX Summit, qui est organisé. Les derniers étaient organisés en France, donc c'était plutôt pratique, et qui est effectivement une grosse conférence qui réunit des UX designers, des user researchers, des game designers, donc toutes les personnes qui s'intéressent à l'expérience joueur et voilà, au fonctionnement du cerveau et forcément aussi à l'accessibilité. J'ai eu à l'occasion justement d'un UX Summit de rencontrer des associations sur l'accessibilité d'ailleurs qui proposent de mettre en place des playtests avec des personnes avec différents handicaps.
Quelles associations as-tu rencontrées à cet événement amical?
Et alors je ne me rappelle absolument plus le nom, j'ai la carte dans mon portefeuille, mais je ne me rappelle plus le nom de l'association là.
Eh bien, c'est pas grave, Michael. En tout cas, tu auras l'occasion sur Dear People de pouvoir écouter une émission avec le président de Cap Game. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, ça sera notre prochaine émission Cap Game, association qui permet de promouvoir l'accessibilité de jeux vidéo en France. Cela sonne la fin de notre émission. Aujourd'hui sur Auditory, je remercie Mickaël évidemment d'avoir participé.
Merci à vous.
Avec plaisir, et je remercie encore une fois Ubisoft de m'avoir permis ces entretiens avec David, Adrien et Mickaël. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.